Tout de suite, le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons évidemment ce journal avec ces attaques terroristes ce matin contre deux mosquées néo-zélandaises. Attaques qui ont fait, selon un dernier bilan, au moins 49 morts. Quatre suspects ont été arrêtés, dont un tireur identifié comme un extrémiste de droite australien.
Dans votre journal également, des milliers de personnes qui manifestent depuis ce matin dans le centre d'Alger.
Oui, vendredi est habituellement le jour hebdomadaire de contestation en Algérie. C'est surtout le premier depuis que le président Abdelaziz Bouteflika a reporté l'élection présidentielle, prolongeant s'inédier son mandat au-delà de son terme.
Dans le reste de l'actualité, nous ouvrirons un grand livre d'or, celui de la mobilisation citoyenne pour sauver la planète.
À l'heure de la perte de confiance globale dans les institutions, la grève mondiale des jeunes pour le climat aujourd'hui semble témoigner de ce que l'ambition de peser sur un danger, même en partie irréversible, n'a pas cédé à la résignation dans plus de 100 pays et quelques 1600 villes. Des étudiants, des lycéens, parfois même des collégiens ont prévu de descendre dans la rue pour alerter les dirigeants sur l'état d'urgence climatique.
Face à un océan de mots, lui ne devra pas céder à la peur de la page blanche.
Oui, lui, c'est Emmanuel Macron qui, d'ici à l'été prochain, aura la lourde tâche de synthétiser les millions de contributions en ligne et autres cahiers de doléances issus du grand débat national qui s'achève aujourd'hui. De son côté, Édouard Philippe s'est déjà dit soucieux ce matin d'éviter une déception de la population et s'est dit prêt notamment à examiner la possibilité de réindexer les retraites sur l'inflation en 2020. Enfin, l'invité de la page Europe de ce vendredi, Georges Blum, auteur de L'Ami Indésirable, publié aux éditions Saint-Simon sur les difficultés du couple franco-allemand. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera à la grande table des idées.
À partir de quelques classiques, comprendre l'Europe d'aujourd'hui et imaginer celle de demain, la bibliothèque idéale et européenne de nos invités, c'est d'abord le journaliste et essayiste Bernard Guetta, qui sera avec nous. Il vient de publier la première partie, le premier volet de son enquête hongroise chez Flammarion. Et puis Salomé Saké, jeune journaliste à la revue en ligne Le Vent se lève, nous rejoindra, ainsi que la YouTube Tatiana Ventose, co-auteur de Jusqu'ici tout va très mal, antidote au chaos politique.
Merci et à tout à l'heure. À l'effroi qui a saisi ce matin la Nouvelle-Zélande après que 49 personnes ont été tuées et autant d'autres blessées dans des attaques terroristes perpétrées contre deux mosquées de la localité de Christchurch dans le sud du pays. Il aura donc fallu que vienne s'ajouter l'horreur d'une vidéo macabre diffusée en direct par l'un des assaillants en train de tirer à bout portant à l'arme automatique sur plusieurs fidèles. Des images insoutenables complétées depuis par les témoignages des rescapés qui tous racontent les corps ensanglantés, le bruit des balles et les scènes de panique. Au total, quatre suspects, trois hommes et une femme ont été interpellés. Aucun d'entre eux ne faisait l'objet d'une surveillance particulière, même si tous semblent faire partie des milieux extrémistes. L'un d'entre eux en particulier, un Australien d'une vingtaine d'années, avait publié à l'avance sur son compte Twitter les photos de son arsenal, de même qu'un manifeste raciste convoquant à peu près tout ce que l'extrême droite suprémaciste peut généralement mobiliser comme arrière-plan idéologique. Les précisions d'Omar Waman.
C'est en début d'après-midi, heure locale, que la tuerie a commencé. Un homme vêtu d'une tenue de camouflage et muni d'un fusil automatique a ouvert le feu sur les fidèles en train de prier. Les premiers témoins évoquent un véritable massacre, comme cet homme qui se trouvait à l'intérieur de l'une des deux mosquées.
Il y avait un banc. Je me suis glissé dessous, la moitié de mon corps dépassé. J'ai retenu ma respiration. Et l'homme a rechargé son arme à 7 reprises. Il tirait. La mosquée est divisée en différentes sections. Il est allé dans chaque salle et a tiré sur tout le monde.
Le tireur, âgé de 28 ans, est un ressortissant australien, selon le Premier ministre de l'Australie voisine, Scott Morrison, qui le décrit comme étant un terroriste extrémiste de droite.
L'attaque qui s'est produite aujourd'hui a été faite par un violent terroriste, un extrémiste de droite. Je peux confirmer que cet individu qui a été interpellé est un citoyen australien. En conséquence, les autorités australiennes sont impliquées et je vais suivre leur enquête pour laquelle tous les moyens sont employés.
La tuerie a été planifiée, le tireur a mis en ligne la veille une vidéo et publié un manifeste sur Internet pour revendiquer ces attaques qui ont créé un vent de panique dans cette ville de Christchurch qui a été bouclée par la police.
L'armée israélienne a mené tôt ce matin des frappes militaires contre des positions des mouvements islamistes Hamas et djihad islamique dans la bande de Gaza en représailles aux tirs de roquettes vers l'État hébreu depuis l'enclave palestinienne. Ces hostilités sont la dernière manifestation en date des tensions persistantes entre Israël et les groupes armés palestiniens, lesquels ont déjà frôlé l'an dernier un nouveau conflit après trois guerres depuis 2008. Et puis surtout, elles interviennent dans une période sensible, non seulement parce que le cessez-le-feu observé de part et d'autre demeure donc fragile, mais aussi parce qu'Israël est aujourd'hui en pleine campagne électorale. À l'issue d'une semaine qui aura vu le président algérien Abdelaziz Bouteflika reporter les élections, proroger son mandat et proposer un plan de réforme aussitôt raillé, de nouvelles manifestations contre le pouvoir ont été convoquées pour cette journée de vendredi, jour phare des contestations. Waïba Filali, vous êtes notre envoyé spécial à Alger, où des milliers de personnes ont déjà commencé à investir les rues de la capitale.
Je me trouve à place de la Grande Poste, au cœur de la ville d'Alger, où depuis deux heures maintenant, des milliers d'habitants se sont retrouvés pour donner de la voix. Je ne sais pas si vous les entendez crier, chanter, Silmia pacifique, pouvoir assassin, dénoncer la CSA, le système, tout cela dans une ambiance bon enfant. On retrouve beaucoup de familles, des enfants, des personnes âgées, tous ou quasiment tous enveloppés dans des drapeaux verts et blancs avec le croissant et l'étoile rouge. Il y a beaucoup de pancartes également, beaucoup de poésie d'ailleurs sur certaines. La conscience des gouverneurs meurt, mais la conscience des peuples reste, écrit un jeune homme en arabe et en français. Des manifestants également surveillés très près, puisque plusieurs dizaines de camions de force de l'ordre encadrent la place, hein, et un hélicoptère vole au-dessus de nos têtes pour cette mobilisation qui devrait prendre de l'ampleur plutôt vers 14h après l'heure de la prière.
Merci Waïba Filali, donc envoyé spécial à Alger. Alors s'il paraît difficile aujourd'hui de ne pas lire entre les lignes de la contestation en Algérie, l'espoir pour toute une jeune génération de vivre enfin sa propre révolution de printemps, l'histoire nous aura malheureusement appris aussi que les fruits ne tiennent pas toujours la promesse des fleurs. La situation actuelle de la Libye comme de l'Égypte en sont une parfaite illustration, et que dire encore de la Syrie, là-bas 8 ans jour pour jour après les premières manifestations contre le régime. Non seulement la révolution s'est muée en une effroyable guerre, mais le maître de Damas a par ailleurs repris la main sur la quasi-totalité du territoire. Après que le Sénat américain, pourtant contrôlé par les républicains, a infligé un véritable camouflet à Donald Trump en approuvant une résolution l'exhortant à arrêter tout soutien américain à la coalition saoudienne dans la guerre au Yémen, c'était mercredi. Hier, les mêmes sénateurs ont annulé cette fois-ci l'état d'urgence décrété par le président pour pouvoir financer son mur à la frontière du Mexique. 2 votes sanctions qui résonnent probablement comme autant de victoires pour tous les pourfendeurs de la politique menée par l'actuel locataire de la Maison Blanche, mais 2 votes essentiellement symboliques en réalité, puisque Donald Trump a déjà promis dans un cas comme dans l'autre de faire usage de son droit de veto. Si parmi l'alternative être ou ne pas être, être semble être bien la seule et vraie question à laquelle il importe d'apporter une réponse, les Britanniques, en revanche, ne semblent pas avoir véritablement tranché après avoir rejeté à 2 reprises l'accord de sortie négocié de leur pays avec Bruxelles, puis rejeté la perspective d'une rupture non négociée avec l'UE. Les députés britanniques se sont prononcés hier contre la tenue d'un 2e référendum, de peur sans doute qu'ils ne contredisent le premier, tout en votant pour un report de la date du Brexit. Dès lors, la question qui se pose pourrait se résumer ainsi, un report certes, mais pourquoi faire? Et la réponse la plus probable est sans doute encore à trouver dans l'expression typiquement British, wait and see. Si la terre est bleue comme une orange, combien de temps encore conservera-t-elle la rondeur et le pulpeux autant que le parfum? Sans doute est-ce aussi en partie pour que la métaphore éluardienne conserve ainsi toute sa légitimité que des milliers de jeunes à travers la planète ont décidé de se mobiliser aujourd'hui à l'occasion donc d'une grève mondiale et faire entendre leur voix pour tenter de protéger une terre menacée par les dérèglements climatiques. Alors avant de voir comment les jeunes se mobilisent à l'étranger, en France, tout d'abord, une manifestation est prévue cet après-midi, mais dès ce matin, plusieurs dizaines de jeunes ont mené une première action en bloquant l'entrée du siège de la Société Générale à la Défense, dénonçant ces financements nocifs au climat, car si battre le pavé reste bien la clé de la mobilisation citoyenne, cela ne doit pas empêcher le rapport de force à travers, par exemple, des actes de désobéissance civile. C'est du moins l'avis de Léna Lazare, étudiante à la Sorbonne en physique. Elle répond à Véronique Roberotte.
Je pense que c'est nécessaire, là on n'a plus le temps, on se rend compte que ça fait des dizaines d'années que voilà, on se mobilise, qu'on fait des actions de masse mais qu'on nous écoute pas, donc au bout d'un moment il va falloir essayer d'entrer dans un rapport de force. Et je pense qu'avec des actions de désobéissance civile un petit peu partout, en tout cas on aura plus de poids que seulement avec en faisant de l'action de masse classique, même si ça reste toujours hyper important je pense de marcher. Non, la manif suffit pas, ça c'est sûr. Très clairement, en fait, si ce qu'on fait n'a pas d'impact sur l'économie, on a l'impression qu'on nous écoutera jamais. Mais on encourage aussi tous les étudiants et les jeunes qui se mobilisent à être créatifs. Pendant la marche, là, il va y avoir des petites actions de désobéissance civile aussi. Il y a des groupes anti-pub qui se forment, c'est fou, ça prend de l'ampleur. On en a marre de voir des publicités dans la rue, décrochons-les, mettons des publicités détournées à la place. On en a marre d'être dans des villes bétonnées, partons en mode guérilla verte et allons planter des choses partout. Faisons ça surtout dans la bonne humeur aussi, en créant du lien social. Et je pense que ça pourra prendre de l'ampleur et devenir quelque chose vraiment d'intéressant, notre mouvement de grève.
Alors, on l'a dit, les grandes marches des jeunes pour le climat ont lieu un peu partout aujourd'hui en France, mais aussi à l'étranger. En Afrique du Sud, par exemple, là-bas aussi, lycéens et étudiants ont décidé de sécher les cours pour la bonne cause. Il faut dire que le pays est encore loin des standards internationaux en matière de protection de l'environnement. Pour preuve, l'an dernier, Greenpeace avait désigné la région de Mpumalanga comme la région aujourd'hui la plus polluée du monde. Reportage à Pretoria ce matin de notre correspondant Noé Hochet-Baudin.
Il n'y a pas de deuxième planète. Le slogan est repris par les nombreux lycéens présents devant la présidence à Pretoria, comme les Tabo, 17 ans.
On rate beaucoup de cours en venant, mais cette cause est plus grande. C'est une cause qui nous dépasse. Donc je pense qu'on devrait se rassembler tous les vendredis.
Elle a pris conscience des enjeux climatiques l'an dernier lors de la sécheresse qui a touché le Cap, la deuxième ville du pays.
Ça a été un déclic, car pas grand monde était conscient de ces enjeux. Il y a eu du changement depuis. Les écoles essaient d'éduquer les enfants sur l'environnement. Cette marche peut aussi permettre d'interpeller. Les gens ne veulent pas voir une nouvelle sécheresse dans les années à venir.
L'Afrique du Sud n'est pas un bon élève dans la lutte contre le réchauffement climatique. 85% de l'énergie est encore produite à partir du charbon. Chris Engelbrecht est l'un des professeurs présents à la marche.
Officiellement, selon les Nations Unies, il nous reste 11 ans, ce qui signifie que toutes les mines et les centrales à charbon doivent arrêter de brûler du charbon dans 11 ans. Donc, nous devons commencer maintenant.
Robin, un de ses étudiants, s'inquiète des impacts dans les pays en développement.
Nous mettons des vies en danger, particulièrement dans les pays comme l'Afrique du Sud, avec une population pauvre. Ce sont ces personnes pauvres qui vont être touchées les premières et les plus durement.
L'Afrique du Sud a été citée dans un rapport de Greenpeace l'an dernier, comportant la région la plus polluée au monde, avec 12 centrales à charbon dans un périmètre d'environ 200 km.
Parce que l'impatience est immense et les risques de déception sans doute bien davantage encore. La fin aujourd'hui du grand débat national ne saurait se résumer à une simple page qui se tourne pour répondre aux inquiétudes exprimées. À l'occasion de ces 2 mois de consultation inédite, l'exécutif devra non seulement faire le compte des doléances qui lui ont été adressées, mais plus encore, il devra s'en inspirer pour écrire un nouveau chapitre, à même de mettre en perspective la fin du quinquennat. Alors l'exécutif a d'ores et déjà promis des propositions, je cite, « précises et disruptives ». Reste que conscient des enjeux et du potentiel de risque déceptif qui pourrait embraser de nouveau la rue, plusieurs membres du gouvernement se sont employés ces derniers jours à préparer le terrain. On citera notamment la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, pour qui le gouvernement n'a pas de baguette magique. De son côté, Édouard Philippe a prévenu, imaginer qu'il serait possible de sortir du grand débat par une série d'annonces et de vérités révélées, c'est se tromper sur la nature même de l'exercice. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Alors même si pour l'heure rien n'a filtré des possibles pistes retenues, le Premier ministre s'est d'ores et déjà dit prêt ce matin à examiner la possibilité de réindexer les retraites sur l'inflation en 2020 et en particulier les petites retraites.
Effectivement, quand le gouvernement a décidé l'année dernière le quasi-gel des pensions de retraite pour 2019, 0,3% de revalorisation, quand l'inflation augmente d'1,8%, on a vu tout de suite les réactions d'indignation des premiers concernés. Indignation qui s'est traduite par des manifestations de retraite et même l'investissement des plus modestes dans le mouvement des Gilets jaunes. Il n'est donc pas étonnant de retrouver cette revendication dans le haut des réclamations des Français exprimées dans le cadre du grand débat national. Et depuis peu aussi, dans les pistes étudiées par la majorité pour répondre au mécontentement des 16 millions de retraités. Ce matin, Édouard Philippe a donc emboîté le pas à plusieurs députés La République En Marche et au ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. J'entends un certain nombre de voix qui demandent de réindexer pour 2020 les petites retraites, explique explique le Premier ministre, qui concède que la mesure a fait perdre du pouvoir d'achat aux retraités. Mais ce n'est pas un hasard si le chef du gouvernement retrouve, lui, deux raisons. Les élections européennes fin mai, avec le besoin de ménager une catégorie de personnes qui se déplacent encore au bureau de vote. Et ce qui s'annonce très logiquement comme le gros dossier sensible de 2019, la réforme des retraites présentée au Parlement en juin prochain. L'exécutif marche sur des œufs, on doit y aller à tâtons, voir comment l'opinion réagit, avec comme contrainte imposée la réduction des dépenses publiques. Trois leviers à disposition, impacter les actuels retraités avec une baisse des pensions. On voit bien que le contexte de contestation rend la chose difficile. Les entreprises avec une hausse des cotisations difficilement imaginable de la part du gouvernement. Reste le recul de l'âge de départ à la retraite. Et là, on sait que c'est la prochaine piste sérieusement étudiée. C'est une question qu'il faut se poser, dit ce matin Édouard Philippe. La réponse, elle aussi, se trouve peut-être dans le résultat du grand débat.
Merci Adrien Toffolet. J'ajoute que le grand reportage de la rédaction ce soir intitulé « Des mots et débats » sera justement consacré à ces deux mois de consultation nationale inédite. Reportage signé Rosalie Lafarge, réalisé par Annie Brois, écouté à partir de 17h sur l'antenne de France Culture et qui sera suivi d'une discussion avec l'historien Jean Garrigue. Après le cuisant échec du Parti Socialiste à la dernière présidentielle, se pourrait-il que quelqu'un à gauche veuille essayer de replanter ce qu'il reste de Rose Fanet? On pourrait imaginer que ce rôle était logiquement dévolu à son premier secrétaire, Olivier Faure, sauf que ce matin, Raphaël Glucksmann, cofondateur du mouvement Place Publique, a annoncé le lancement d'une liste citoyenne dont l'essayiste prendra la tête pour tenter de réaliser l'union de la gauche. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors demain, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, proposera lui à son conseil national de faire l'union avec Place Publique et d'avaliser donc Raphaël Glucksmann comme tête de liste, même si depuis quelque temps le PS n'émettait plus guère de signes vitaux, cette possible union, Stéphane, signe-t-elle définitivement la mort du Parti Socialiste?
Alors ça c'est ce que craignent de nombreux cadres du PS en interne, car si cette alliance était confirmée demain, il faut encore que les socialistes l'avalisent par un vote, eh bien ce serait la première fois depuis que sont organisées des élections européennes, depuis 1979, que le PS ne présenterait pas de liste autonome en son nom propre. Et ce serait dès lors acter que le Parti Socialiste est devenu une formation politique de seconde zone, incapable de jouer les premiers rôles. Et il semble qu'il y a là pour beaucoup une étape psychologique extrêmement difficile à franchir. Mais il faut pourtant considérer qu'une candidature autonome a de fortes chances de se terminer par un fiasco. C'est sans doute la conclusion à laquelle est arrivé le premier secrétaire Olivier Faure. Toutes les enquêtes réalisées donnaient jusqu'ici au PS environ 5% d'intention de vote, encore moins que Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle en 2017. Et du coup, il y avait là un risque de précipiter la désagrégation déjà partiellement avancée du Parti Socialiste. C'est la raison pour laquelle Olivier Faure a négocié et défendu jusqu'au bout cette alliance qui n'avait rien d'évidente non plus pour Place Publique et pour Raphaël Glucksmann, puisqu'il avait créé ce mouvement afin d'essayer de fédérer les forces de gauche. Mais très vite, les communistes, Benoît Hamon, Europe Écologie Les Verts, ont décliné les propositions d'alliance et du coup, se retrouver tout seul avec le PS, c'était d'une part afficher une couleur politique un peu trop prononcée et donner l'impression que Place Publique, finalement, c'était un PS bis. Et d'autre part, s'allier avec une formation politique en nette perte de vitesse revenait plutôt à se lester d'un poids lourd à porter qu'à initier une dynamique. Mais finalement, la considération qu'il a emportée semble qu'on va montrer malgré tout là que, même si c'est embryonnaire et imparfait, Place Publique est en mesure de commencer à nouer des alliances et à agréger une partie de la gauche.
Alors avec cette annonce, Stéphane, on notera également qu'à présent, à droite comme à gauche, donc on se tourne aujourd'hui vers des intellectuels pour conduire cette campagne.
Oui, Glucksmann, tête de liste du côté du PS à gauche, et puis François-Xavier Bellamy, un autre philosophe qui à droite conduit la liste pour les Républicains. Il est notable que les deux formations politiques qu'on désignait jusqu'ici comme des partis de gouvernement font appel à des intellectuels, plus particulièrement à des philosophes, pour essayer de se régénérer. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, déjà, ça valide ce constat qu'on dressait depuis quelques années. Les partis politiques sont devenus des machines qui ne servent plus qu'à sélectionner des candidats en vue des élections et ne servent plus de matrice à l'élaboration de projets de société. Et puis, ça signifie qu'il y a là à la fois une perte et une quête de sens dans un monde en pleine mutation.
Merci Stéphane Robert. L'invité Europe de la rédaction, à présent aujourd'hui Georges Blum, auteur de L'ami indésirable, publié aux éditions Saint-Simon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Une première question toutefois monsieur Blum, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qui est ce fameux ami indésirable?
C'est d'abord Macron qui vient chez nous en Allemagne en tant que successeur des grands noms, de Mitterrand, de Giscard, et qui nous demande un budget européen, qui veut qu'on fasse quelque chose pour l'Europe. Et nous, on en a un peu marre de ce vieux ami qui veut réveiller l'histoire d'amour ancienne, et nous on est sur autre chose, et alors cet ami-là, on ne veut pas vraiment l'entendre. Mais c'est aussi tous les Français qui viennent en Allemagne, qui discutent avec nous que l'Europe, ce n'est pas que le marché, c'est autre chose, et nous on est tranquille avec notre pouvoir économique et ça va bien en Allemagne, et on ne veut pas trop entendre de cet ami-là.
Alors dans les couples franco-allemands, hein, il y a eu Giscard Schmitt, Mitterrand Kohl, Chirac Schröder. C'était des couples qui marchaient plutôt bien, même Giscard et Schmitt étaient très très amis. Et depuis Merkel, avec Sarkozy, avec François Hollande, et puis maintenant Macron, eh bien les tandems marchent moins bien. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un problème de personnalité avec Merkel ou c'est un problème, tout est corrélé à la situation économique de la France?
Non, je crois que c'est beaucoup plus qu'un problème de personne et de couple au niveau du pouvoir. En Allemagne, depuis 20 ans, depuis même plus, on prend ses distances avec la France, je crois. Ma génération encore, nos références philosophiques, politiques, c'était souvent en France, c'était encore de Beauvoir, c'était aussi Mitterrand à un certain moment quand il disait le nationalisme c'est la guerre et tout ça. Mais depuis qu'on est à Berlin, que le pouvoir en Allemagne et à Berlin, on croit être au milieu de l'Europe en Allemagne et à Berlin. On croit avoir d'autres amis à l'Est, peut-être plus importants ou plus intéressants. On est plus curieux vers l'Est que vers la vieille France. Et tout ça a fait que les milieux intellectuels allemands n'ont plus vraiment un trait pour la France, surtout une France de Hollande qui semblait, je veux dire, ennuyante, pas de nouveaux idées, et un peu, je sais pas, sur les vieux sujets. Peut-être les gilets jaunes nous ont réveillés un peu, peut-être, parce que au moins, je veux dire, la France est capable de faire une sorte de surréaction que nous, Allemands, ne sommes jamais capables de faire, et ça nous... J'espère que ça revitalise un peu notre
intérêt. Michel Houellebecq, que vous aimez beaucoup en Allemagne, qui est un des rares aujourd'hui.
Oui, mais il est un des rares qui est passé. Son livre est aussi vendu en Allemagne et en France, mais avec justement ce message que la France est décadente, c'est le vieux Ouest qui ne marche plus et où on ne peut que se résigner. Et tout cet esprit de libération, qui venait de la France en 68, le féminisme qui venait avec Simone de Beauvoir, d'autres en Allemagne, toutes ces choses-là, on les pense, nous sommes mieux dans ça maintenant que la France. Nous avons les Verts, grand parti des mouvements sociaux, qui est féministe, écologiste, ça vous manque. Pourquoi encore regarder? Et ça nous empêche de voir quel est vraiment l'intérêt de notre relation encore, qui est primordiale pour toute l'Europe et pour les stratégies à venir, pour le social en Europe surtout.
Alors vous dites que la France devrait peut-être changer de situation, elle est affaiblie mais arrogante, voyageant en première avec un ticket de seconde.
Non, je veux dire, vous avez bien sûr, il y a toujours cette rapproche allemand vis-à-vis de la France. On boit
c'est
trop
déficit.
De vin à midi en France.
Et c'est déficit.
Pas comme nous, les 35 heures et les déficits. Et d'abord, travailler, après, on peut faire quelque chose. D'abord, vous faites vos réformes. Maintenant, après, on peut faire quelque chose. Mais il y a aussi eu beaucoup de réponses françaises. Vos entreprises internationales, les grandes entreprises françaises sont beaucoup plus de part-marché que les Allemands dans beaucoup de branches. Et Macron a fait ces réformes qu'on a tout le temps demandées, mais ça ne change pas notre approche. On a bien vu ces dernières années. Et c'est ça qui est la grande faillite de l'Allemagne aujourd'hui. On ne voit plus cet intérêt commun entre Français et Allemands à mener l'Europe quelque part et à vraiment faire... alliance avec la France mais à tous les niveaux, pas que au pouvoir, aussi dans les milieux intellectuels, dans les universités.
Mais un profond désamour, vous pensez? Hein, il y a un profond désamour, vous pensez, entre la France et l'Allemagne ?
J'espère qu'il en reste quand même de l'amour. Justement, tout ça, c'est pour dire, j'espère que ce n'est pas la fin d'une grande histoire d'amour. Parce que qu'est-ce qu'il y avait de mieux, je veux dire, au niveau international, que notre relation après la guerre ?
Et l'avenir, juste en quelques mots, l'avenir, Annegret Kramp-Karrenbauer, les dernières déclarations, c'est pas non plus une grande histoire d'amour qui commence.
Non, ça n'a pas l'air. Hein. Mais bon, il faut croire qu'elle vient de la Sarre, c'est une petite région allemande qui est plus française qu'allemande, et que pour qu'elle devienne chancelière, il faut déjà prétendre qu'elle n'est pas française.
Pas qu'elle montre qu'elle aime trop voilà. La France.
Et on terminera par ces mots. Merci Georges Blum, auteur, je le rappelle, de L'Ami Indésirable, publié aux éditions Saint-Simon. Et merci également à Annabelle Grelier. Et puis avant de terminer le journal, on vient d'apprendre une disparition, Olivia.
Et celle d'un écrivain que beaucoup affectionnaient aujourd'hui. On est en direct de Livre de Paris. On a appris le décès dans la nuit de l'écrivain Dominique Noguez, prix Femina, ancien prix aussi de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. C'était un spécialiste du cinéma et de la littérature aussi. Il avait écrit de nombreux essais littéraires, notamment La colonisation douce, Feu, la langue française, point d'interrogation. C'était un partisan de la francophonie, engagé sur ces questions-là, proche aussi de Houellebecq, qu'il avait aidé à faire découvrir en France, grand admirateur de Marguerite Duras. On vous donnera juste le nom de son dernier livre qui venait de paraître aux éditions Albin Michel. Encore une citation, Monsieur le Bourreau. Voilà, on y reviendra dans les prochaines éditions et émissions de France Culture. Un mot de la météo, Thomas.
Rapidement, à l'exception du pourtour méditerranéen, le temps restera globalement maussade et pluvieux cet après-midi sur l'ensemble du territoire. Les températures, elles varieront généralement entre 12 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.